Salut Lydie.
Bonjour Marco.
Ça va Lydie?
Ça va très bien.
Alors pour débuter cette chronique, j'ai cru comprendre que tu voulais faire un petit point agenda.
Oui, bien sûr. Alors, ce mois-ci, on a une rencontre qui est très, très importante. Dans le cadre de l'agenda durable, la mairie de Saint-Pierre-du-Mont organise le vendredi 18 juin à 18h30 un ciné-discussion. L'association Les Jardins Reconnaissants vous propose d'assister à la présentation du concept de jardin-forêt et de micro-forêt participatif en zone urbaine. Venez échanger et débattre sur ce très beau projet vert au Forum de la culture et des loisirs de Saint-Pierre-du-Mont le vendredi 18 juin à 18h30.
Le rendez-vous est pris. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Lydie, on va commencer par, comme d'habitude, semer.
Oui, bien sûr. Voilà, on va semer. Donc, on sème les carottes d'hiver, les chicorées Wheatloaf dont on forcera les racines pour avoir de savoureuses endives cet hiver. Mais restons dans la saison estivale. Il a tellement plu et fait froid en mai que nous avons pris du retard au jardin. On sème les aromatiques, cerfeuil, aneth, coriandre, etc. avant qu'ils refusent de germer pour cause de température trop chaude. On sème tous les haricots, les courges, concombres, courgettes, cornichons, en pleine terre. Les radis tous les 15 jours, toujours pour avoir une production échelonnée. On veillera à bien les arroser pour qu'ils ne développent pas un côté piquant. Les salades seront semées, elles aussi, tous les 15 jours. Petite astuce pour les laitues qui ne germent pas au-delà de 25 degrés. Vous les semez en mini godets ou en mottes et vous les arrosez. Puis vous les laissez 4 jours en cave et vous les sortez ensuite dans un endroit clair et lumineux. Votre germination est alors garantie. Si votre potager est le terrain de prédilection des baveux, chez moi le jardin c'est open bar, semez à nouveau les tagettes, les œillets d'Inde et les tournesols dont ils se délectent. Après le solstice d'été, 21 juin, semez le fenouil et les radis d'hiver.
Ils t'agacent hein, ces escargots.
Terrible.
Allez, après avoir semé Lydie, on plante. Qu'est-ce qu'on plante ce mois-ci?
Alors, on continue de planter tous les choux, qu'ils soient rouges, kale, pommée, fleurs, Bruxelles, etc. Mais surtout, on va vider la serre. Les pastèques, les concombres, cornichons, piments, poivrons, melons et aubergines, hop, tout ce petit monde qui languit en godet part pour une opération pleine terre au potager. Après le solstice, on plantera les poireaux d'hiver, ceci pour éviter qu'ils ne montent à graines prématurément. J'ai aussi observé qu'après le solstice, donc le 21 juin, les poivrons et piments ne représentent plus d'intérêt gustatif pour les limaces et les escargots, donc je diffère ces plantations sensibles après le 21 juin.
Tu as une idée de pourquoi ou...
Absolument pas.
Ah, c'est juste
une année, j'avais pris beaucoup de retard et donc j'ai semé après le solstice hein, et je me suis retrouvée avec zéro dégât. Donc ça fait maintenant 4-5 ans, je continue.
Et 4-5 ans, ces 4 et 5 années, ça, c'était la même chose,
t'as pas eu de... Voilà, et depuis, il ne me boulotte plus les poivrons. Par contre, si jamais j'oublie un poivron en godet à l'extérieur de la petite serre qui est très très surveillée, je me le fais boulotter terrible.
Direct. Bon, qu'est-ce qu'on peut récolter en ce mois de juin?
Alors, on récolte les jeunes carottes, navets, les petits pois, les oignons blancs, les radis, les pommes de terre nouvelles, les courgettes, l'ail et l'oignasse. On récoltera aussi la rhubarbe bien précieuse quand on a des gels comme cette année qui compromettent une bonne partie des récoltes fruitières. On se délectera de fraises, groseilles, framboises, cassis et groseilles à maquereaux. Si vous avez suivi mes conseils et semé des tomates Stupis très tôt, c'est une variété qui est très précoce, vous pourrez déguster vos premières tomates de plein jardin pour le premier jour de l'été.
C'est quand même une récolte assez réjouissante que tu nous proposes là pour ce mois de juin. Ok, on poursuit avec notre quatrième étape réglementaire désormais, diviser et bouturer. Qu'est-ce qui se passe en juin?
Oui, eh bien, on a les fraisiers qui commencent à faire des stolons. Donc, on récupérera un ou deux bébés fraisiers sur un stolon, pas plus pour ne pas épuiser le pied mère.
Est-ce que tu peux éclairer l'ignare que je suis? Qu'est-ce que c'est qu'un stolon?
Alors, un stolon, c'est une petite pousse qui part du pied mère, une petite tige rampante. Et là-dessus, on a des petits bébés fraisiers qui se développent.
D'accord. Donc on la coupe et on la...
Non, en général, on met plutôt un petit pot, un petit godet, ou si on est en pleine terre, on voit dès que les racines commencent à apparaître, on coupe par rapport au pied mère et on appelle ça sevrer un petit fraisier.
D'accord. Merci Lydie.
Donc un fraisier produit 3 ans et il cesse en général au bout de 5 ans. Donc les anciens jardiniers renouvelaient leurs fraiseraies en ajoutant une ou deux rangées de jeunes fraisiers et en supprimant une ou deux rangées des plus vieux. On bouture aussi le laurier thym, le laurier rose, le laurier sauce et le laurier palme en notant soigneusement la variété et la couleur pour le laurier rose qui n'est pas toujours rose car on a aussi de très jolis coloris rouge, jaune, orangé et blanc. C'est le bon moment aussi pour bouturer les végétaux qui ont fleuri comme le lilas et le seringa, le romarin, les sauges arbustives et la verveine citronnelle. On bouture aussi le papyrus qui est une bonne polyvalente. C'est une plante d'intérieur qui fait merveille dans les salles de bain pour peu qu'il y ait une fenêtre et qu'on lui laisse la soucoupe remplie d'eau. Au jardin, c'est une vivace qui renaît chaque année et qui fait un bel écran végétal d'un mètre 80 de haut. On coupe la tige, les feuilles en éventail, ne laissant que 2 cm de cœur. On plonge le cœur dans l'eau et en 2 semaines, des petites pousses vont se développer. C'est le bon moment pour les mettre dans le terreau ou en pleine terre. Vos iris sont moins florifères ? C'est normal s'ils sont en place depuis plus de 4 ans. En effet, tous les 5 à 6 ans, on sort la bêche fourche et on les déterre. On les sépare les uns des autres, on ne conserve que les iris de la périphérie qui n'ont pas encore fleuri. On coupe 2/3 du feuillage en éventail, la moitié du rhizome qui est la partie renflée et charnue et on laissera 3 cm aux racines. On est parfois un peu impressionné de couper autant, mais c'est le gage d'une bonne reprise et d'une parfaite installation de vos iris. Profitez-en pour en proposer à vos voisins et à les troquer contre d'autres coloris ou d'autres végétaux.
Oui, parce qu'il y en a un paquet de coloris. Oui. J'en ai découvert plein de nouveaux cet été. Ce printemps, c'est splendide.
Ah oui, c'est magnifique.
Des roses pâles, des pourpres. Bon, bref, on va passer ton truc sur la couleur des iris. Bon. Du côté des bons gestes, de la taille et des soins, Lydie, qu'est-ce que tu nous proposes pour ce mois de juin?
Eh bien, vous veillerez à ce que votre sol soit constamment couvert et n'hésitez pas surtout à rajouter de la paille, du foin, des débris végétaux, un petit peu tout ce qui est végétal et qui vous passe sous la main. Si vous avez de la vigne, vous couperez avec un sécateur désinfecté pour chaque pied les pousses qui se développent à la base du cep. Dans la tête de votre vigne, après chaque grappin, vous laisserez 3 feuilles et vous coupez. Vous couperez aussi les tiges qui ne portent pas de grappes. Cela permet de concentrer la sève sur les grappes de raisin, d'aérer le feuillage, donc d'éviter les maladies, et de faciliter aussi la taille d'hiver. Coupez les fleurs fanées de vos rosiers en coupant juste au-dessous de la 2e paire de feuilles qui se trouve sous la rose défleurie. Cela encourage une nouvelle floraison. Au verger, en règle générale, c'est au mois de juin que l'on supprime les fruits en surnombre sur les pommiers et les poiriers pour avoir des fruits d'une grosseur correcte. On appelle ça éclaircir. Pour les pêchers, il faut 25 feuilles pour nourrir un fruit. Cette année, chez moi, c'est le gel qui a fait le job. Un peu trop bien, il n'a pas compté les feuilles et je n'aurai pas de délicieuses pêches.
Je te sens un peu amère là.
Un peu.
Je vais juste répéter, peut-être que les gens n'ont pas, parce que moi il a fallu que je me la refasse dans ma tête. Pour les rosiers, à partir de la 2e paire de feuilles, en dessous de la rose qui a fleuri.
Oui.
C'est là qu'il faut couper.
Oui.
Voilà. Parce qu'il faut l'intégrer.
Voilà.
Si vous n'avez pas tout suivi, vous le réécouterez en podcast. Vous pourrez tout détailler, mettre pause et écrire. Le geste pour la fin, Lydie, avant qu'on se fasse une petite pause musicale, dis-nous tout.
Alors voilà, vous avez peut-être un arbre mort sur votre terrain. Alors sauf s'il représente un danger, conservez-le sur pied, il a son intérêt. Il va servir de refuge à de nombreux animaux, que ce soit des oiseaux ou des insectes, et de support à des végétaux comme le lierre, entre autres. Vous pouvez planter un rosier liane qui partira à l'assaut de l'arbre à l'aide de ses puissants aiguillons. Ces rosiers ont un développement important de l'ordre de 8 à 12 mètres et sont particulièrement florifères. Comme par exemple Paul Himalayan's Musk, qui a un parfum délicieux et musqué, puissant, et qui se pare de petits fruits rouges en automne qui font le bonheur des oiseaux. Vous avez aussi Félicité et Perpétue aux jolies roses blanches immaculées et beaucoup d'autres. Vous pourrez aussi lui associer une clématite ou encore une vigne que vous pourrez guider en trail et qui vous régalera de ses fruits. Pensez aux vignes interdites, comme Isabelle, qui a un incroyable goût framboise litchi, qui est indemne de maladie et qui se bouture aisément comme toutes les vignes, de préférence à la Sainte-Catherine, fin novembre.
Faites vos valises, restez sur MDM.
Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente.
Et le titre Malamente que l'on écoutait à l'instant. Petit clin d'œil à un événement qui aura lieu lui aussi au mois de juin, fin juin et début juillet, la nouvelle édition du festival Arte Flamenco. Et revenons à nos moutons, si je puis dire, ma chère Lydie, avec la suite de notre chronique reconnaissante du mois de juin avec le livre.
Et oui, le livre. C'est le dernier livre de Xavier Mathias, qui est maraîcher bio, producteur de plants et de graines, mais pas que, puisqu'il dispense aussi ses savoirs jusqu'au potager du roi à Versailles. C'est un défenseur de la biodiversité et j'aime son engagement fort pour le vivant. Donc voilà, le livre, c'est Le potager d'un frimeur. Toi aussi, deviens une star grâce aux légumes.
Ça, c'est bien comme titre.
C'est pas mal, hein.
Ça m'inspire.
Vous n'avez pas une grosse voiture flambant neuve ni une montre de luxe au poignet ? Amis jardiniers, copines jardinières, rassurez-vous, vous n'avez pas raté votre vie. Dans ce livre, vous allez apprendre le finesse du potager et cultiver des plantes nourricières et originales. À vous l'huître végétale, la plante fromage et le piment ovni. Vous découvrirez une mini cucurbitacée comme le Melotrias cabra, qui s'appelle aussi cucuamelon et qui est au concombre ce que la tomate cerise est à la bonne grosse tomate et que vous ne trouverez jamais sur l'étal d'un primeur, mais qui fera l'admiration visuelle et gustative de vos visiteurs. Ce livre aborde le jardinage et le jardin de manière singulière et amusante. Le récit est riche, décalé, avec un humour fin qui incite à s'émerveiller. Il est très inspirant. C'est un livre qui vient de m'être offert, que j'ai dévoré en deux soirées et que j'aurai beaucoup de plaisir à relire d'ici un ou deux mois.
Très bien, merci Lydie. Next, dernière étape cruciale de cette chronique, La recette.
La recette. Et la recette, on va parler du fruit de saison, puisque ce matin, au marché Saint-Roch, j'ai acheté des abricots.
Ça y est. Enfin.
Origine sud-ouest, très, très important. Donc voilà, la saison est lancée. Donc, je vous propose une tarte amandine aux abricots, qui est une recette éprouvée depuis plusieurs années, que j'ai un petit peu modifiée par rapport à ce qu'on peut trouver sur le net ou dans les livres. Donc, pour la pâte sablée, vous pouvez l'acheter prête à dérouler, mais j'aime beaucoup la réaliser. Donc, vous aurez besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre, 125 g de sucre et un œuf cru entier. Vous mélangez la farine et le sucre, vous ajoutez le beurre en petits morceaux et entre les doigts, vous allez sabler les poudres et le beurre. Quand le beurre est totalement incorporé, vous rajoutez l'œuf et vous boulez votre pâte. On beurre un moule, on étale la pâte, on coupe la pâte qui dépasse du bord du moule. Ensuite, vous mettez au réfrigérateur ou au congélateur. Ça permet au beurre de se solidifier et à la dégustation, vos papilles feront la différence. Vous avez besoin aussi de 12 à 17 abricots selon leur grosseur, bien évidemment origine France, avec une nette préférence pour le sud-ouest. Et pour la crème d'amande, dans un saladier, vous mélangerez 120 g d'amande en poudre, 120 g de crème fraîche épaisse, vous savez, le pot d'une célèbre marque normande. Oubliez les crèmes fraîches en briques, les petits trucs légers, fluides, et achetez vraiment de la bonne, vraie crème fraîche.
Quitte à se faire plaisir.
Ah oui, oui, là, il faut. On prend des portions plus petites, mais on se fait plaisir avec de bonnes choses. Vous avez besoin aussi de 100 g de sucre en poudre, de 2 œufs entiers crus et d'une cuillère à café d'arôme amande amère. Donc, vous allez mélanger tous ces ingrédients de la crème d'amande dans un saladier. Vous préchauffez au préalable votre four à 180 degrés. Vous allez ensuite sortir le moule avec la pâte du réfrigérateur et verser la crème d'amande crue sur votre pâte. Vous coupez en deux les abricots, vous les dénoyautez et vous les posez dans le moule, la peau côté crème d'amande. Donc là où c'est que vous aviez votre noyau, c'est censé vous regarder.
Bien compris.
Voilà. On saupoudre un peu de sucre et on parsème l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'amandes effilées sur les abricots. Vous enfournez pour une cuisson de 35 à 45 minutes, selon si votre four a une chaleur tournante ou une convection naturelle. Cette tarte se déguste tiède ou à température. Bonne cuisine, bonne lecture, bon jardinage et que la force de la nature soit avec vous.
Merci beaucoup Lydie.
MDM, votre radio locale.